TCP Tony Committee Production, 5e épisode. Après avoir été photographe, caméraman, grand reporter à TF1, Tony Committee se lance dans une toute autre aventure. Il quitte TF1 et se lance seul tout d'abord, puis avec des copains. Il monte une agence qui devient une des principales agences de production françaises. Travaillant tous les formats, son agence se renforce. Et aujourd'hui, Tony Committee dresse un tableau sans complaisance du paysage audiovisuel et du traitement du news.
TF1, j'ai passé 17 ans sur tous les coups. J'allais là où il y avait la une de l'actualité, donc j'ai passé vraiment les plus belles années de ma vie. Et TF1, il y avait quand même un grand esprit journalistique à l'époque. Hein. Et puis à un moment, oui, peut-être envie d'indépendance et puis envie d'entreprendre. J'avais fait un peu le tour de la question. Je voyais les caméramans les plus anciens, 58 ans, 60 ans, moi j'étais plus jeune, qui boitait un peu. C'était lourd le matériel qu'on transportait à l'époque. Hein. La caméra faisait 15 kilos, les batteries, les sacs. J'avais deux possibilités. J'aurais pu devenir chef d'édition, puis TF1 m'avait proposé ça. Il m'a dit, pourquoi tu ne deviens pas chef d'édition? Et pourquoi pas un jour devenir réalisateur du 20h? J'ai réfléchi une année. Et à l'époque, donc, les chaînes de télé n'achetaient pas de films, ou très peu. Ils coproduisaient un petit peu la post-production à l'extérieur. Chevalier a monté Capa. On va dire qu'il a ouvert la voie de la production télé indépendante dans le reportage et le magazine. Et puis ça a fonctionné pour lui. Je lui dis pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. Après tout, c'est toi qui trouves les idées. Tu tournes tes films, tu les montes. Donc voilà, j'ai pris la décision de quitter TF1 dans des très bonnes conditions et en signant un contrat d'exclusivité de 2 ans avec eux pour 52 sur la Lune. Donc j'ai pas pris trop de risques. Hein. Au début, j'ai acheté une caméra immédiatement. Je suis parti en tournée en Colombie. Voilà, je me suis dit, je vais trouver des histoires pour
Les premiers terrains.
Les premiers terrains, ouais, pays que je connaissais bien, je parle l'espagnol. J'allais pas me mettre sur les terrains où Capa était. Bon, je restais comme freelance, quoi, on va voir. Puis si jamais, on verra bien. Et puis je suis parti en Colombie et j'ai eu un coup de chance. J'étais là chez le coiffeur à Bogota et j'ai vu dans un article d'un journal colombien, un enfant de 9 ans s'occupe des vieux dans son bidonville du côté de Bucaramanga, au fin fond de la Colombie. Donc j'ai appelé le journaliste qui avait écrit ce petit article. Il me dit, si, seigneur, il a 9 ans, vous allez voir, c'est un saint. On l'appelle le petit ange là-bas. J'ai dit, je peux avoir son téléphone. Mais vous rigolez, il n'a pas le téléphone. La seule façon, c'est que vous alliez voir. Donc j'ai pris un avion pour Bucaramanga. Le chauffeur de taxi connaissait très bien cette histoire. Donc il m'a amené dans le bidonville. Et je suis rentré dans la petite maison en tôle ondulée, là, au fin fond d'un bidonville colombien. Et j'ai frappé comme ça à la porte, qui était à moitié entrouverte, et j'avais ma Betacam plus 3 Nikon, parce que je me suis dit, pour gagner ta vie, il faut aussi que tu fasses des photos. Et le gamin de 9 ans, la première chose que j'ai vue, il tenait par la main une dame très âgée, une petite vieille. Il y avait d'autres petites vieilles autour de sa table, et il leur apprenait à écrire. Il m'a regardé, il me dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux rester 2 jours avec toi. Et j'ai fait ce reportage avec des séquences incroyables, avec sa bande de copains. Il allait laver les vieux qui crevaient de chaud sous la tôle ondulée. Il allait dans les marchés à pied qui se trouvaient à 3/4 d'heure, 1 heure de marche, en bas du bidonville, où les marchands lui gardaient tout ce qu'il ne vendait pas. Il montait ça dans son petit sac, de la nourriture, des poireaux, des pommes de terre, des carottes. Un peu de poulet qui restait, et avec son petit sac sur le dos, il reprenait le bus, et puis il remontait dans son bidonville, et puis il remontait à pied, et il distribuait la nourriture aux petits vieux qui crevaient de faim. Un petit ange. Donc, j'ai dit, ça c'est formidable, j'ai appelé à l'époque, c'était Michel Cotta, qui était la directrice de l'info, et je lui ai dit, écoute, j'ai cette histoire, est-ce que... Elle me dit, écoute, Tony, je te fais confiance, rentre à Paris et on regarde ça. Donc j'ai monté le film à TF1. Et j'avais quitté TF1, mais j'étais encore dans le sérail. Je le suis encore d'ailleurs. Et Michel Cotta voit le film qui faisait 26 minutes. Et s'est mise à pleurer. Elle me dit, on diffuse ça samedi. Il faudra prévenir le Standard parce que la France entière va appeler. Ça n'a pas loupé. Après diffusion, il y a eu un premier don de, à l'époque, ben ça fait 100 000 euros. Ils sont arrivés à TF1. Donc c'était une magnifique rencontre pour lui, parce que cet argent après, bon, il a évolué. On ne lui a pas confié l'argent parce qu'à 9 ans et 100 000 euros, le gamin et sa famille devenaient séquestrables. Donc c'est l'ambassade de France à l'époque qui a tout géré. Aujourd'hui, le gamin, il doit avoir 40 ans, hein, c'est ça à peu près. Ouais. Il a monté un hospice en bas de son bidonville. Voyez, donc c'était une très belle rencontre entre lui, moi je l'ai aidé avec ce reportage, et puis moi, puisque j'ai pu vendre mon premier reportage en tant qu'indépendant, et avec ce premier reportage j'ai financé d'autres reportages. Puis des copains sont venus me rejoindre, comme Patrick Chauvel, mon fils Paul, qui voilà, on a commencé l'agence dans les cuisines de l'appartement. Et Patrick de Carolis démarrait Zone Interdite, il m'a appelé, il me dit écoute, je dis je peux pas moi, je suis en contrat d'exclusivité avec TF1. Oui mais toi tu peux pas, mais tu peux peut-être avoir des copains qui font que ça a démarré comme ça. J'ai pas voulu monter une boîte en fait, j'ai voulu entreprendre moi-même en tant qu'indépendant, mais j'ai pas eu au départ la volonté de monter une boîte de production. Voilà, donc c'est des copains qui sont venus me rejoindre.
Ça s'est fait au fil de l'eau en fait.
Au fil de l'eau, tout simplement. Jusqu'à que mon épouse me chasse de chez moi parce que un jour, j'en ai marre d'avoir des salles de montage dans la chambre à coucher et des reporters pleines de bottes de boue et qui laissent leur vélo dans le couloir. Voilà. Donc, donc j'ai loué des bureaux, puis on a commencé comme ça. Voilà. Puis ça pas arrêté, quoi. Ça pas arrêté. C'était depuis maintenant 23 ans. Tony Comité Production fonctionne bien, quoi.
Aujourd'hui, ça représente combien de personnes, combien de reportages?
Il y a à peu près, on est une vingtaine de personnes fixes et il y a 30 en plus de freelance qui sont l'agence. Hein. Donc ça fait 50 personnes. 50 personnes. Et on fabrique entre 75 et 80 heures de reportages et de documentaires par an. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc beaucoup pour M6. Zone Interdite, Enquête Exclusive et 66 minutes. Et puis France Télé et TF1, aussi beaucoup pour TF1, pour TF1 Reportage, qui est une émission formidable.
Et quand ça s'est créé, les premiers documents de Tony Comité Productions, c'est... On revient, bon, en Amérique du Sud, mais c'est Haïti, c'est d'autres choses comme ça. On est toujours sur le feu, quoi.
Oui, parce qu'il y a une demande moindre aujourd'hui d'actualité. Ce qui a fait le succès de l'agence, c'est la réactivité de mes rédacteurs en chef et de mes reporters. Donc, au début, à la création de l'agence, j'ai réappliqué le système photo, quoi, des agences photo. C'est-à-dire qu'une agence de presse doit produire et fournir du contenu pour des chaînes. À partir du moment où les chaînes mettent de l'argent dans un film, aujourd'hui, bon, ben, on est coproducteur. Aujourd'hui, on est obligé, parce que la situation économique ne nous permet pas de prendre des risques. Mais à l'époque, on a pris des risques considérables, c'est-à-dire qu'on partait sur des coûts sans aucune garantie. Mais parce qu'il y avait une demande. Il y avait une demande d'envoyé spécial, de zone interdite, il y avait une demande de... Donc, on partait sur des coûts sans aucune garantie. Mais le flair est... ou de se dire, il y a une info, ça va devenir important. Et on y va. Et on y va à une, deux, trois équipes, mais on y va. Puis on verra bien. On n'a pas eu de catastrophe. Alors on a eu des pépins, hein, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans le pays, on revient, ou bien on n'a pas pu tourner. Mais ce qu'on a tourné, on l'a toujours mis à l'antenne, vendu et mis à l'antenne. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. Le news, le grand news, est rincé dans les journaux télévisés. Maintenant TF1, France 2, les chaînes Tout Info font du magazine, ils font des sujets longs et quand vous faites un magazine vous d'une heure ou d'une demi-heure qui arrive 10 jours après, les gens viennent plus voir. Donc les audiences ne viennent pas, donc les chaînes ne les commandent plus, quoi. C'est en moins qu'il y ait une énorme histoire, hein, comme Charlie et tout ça, bien évidemment, ou le tsunami. Le tsunami, j'ai envoyé, sans demander, 12 personnes de l'agence, tout de suite. J'ai mis dans l'avion 12 personnes de l'agence, et tout de suite après, j'ai dit, voilà, on est dessus, on part.
Qu'est-ce qui fait cette glissade, qui a fait qu'on aille plus vers du magazine, de l'accompagnement, et moins du news?
C'est parce que c'est traité à longueur de journée, par les chaînes Tout Info et par les journaux télévisés. Et donc les journaux télévisés aujourd'hui font des petits magazines de 4 minutes où tout est pratiquement dit, quoi. Je le regrette parce que il y a un regard français. Il y a un regard français, même dans la photo à l'époque, je me souviens, quand il y avait des grands coups, Newsweek, Time, envoyaient leurs équipes, mais demandaient toujours le regard d'un photographe français pour deux raisons. Parce qu'il y a un regard, il y a un regard journalistique que les anglo-saxons n'ont pas, et il y a la débrouille. Les journalistes américains à l'époque, bon, ils faisaient ce qu'on leur, voilà, ce qu'il y avait à faire, quoi, c'est-à-dire les conférences de presse, les interviews, mais ils traînaient pas dans les rues, quoi. Très peu, très peu. Donc il y avait cette demande. Je regrette aujourd'hui qu'on n'ait pas ça. C'est compliqué aujourd'hui parce que les équipes qu'on voit, les journaux télévisés, en plus de ça, ils doivent assurer pour leur chaîne info. Donc ils font que des plateaux pratiquement. Ils font du factuel. Donc ils n'ont plus le temps de creuser. Donc je pense qu'il reste aussi cette place, hein, au magazine. Mais il faut se retirer du news pur, parce que c'est vu à longueur de journée, il y a les radios, et puis les gens peut-être, et regardez bien que les magazines d'info, c'est le week-end, la plupart du temps, hein, c'est le week-end, donc le week-end les gens n'ont peut-être plus envie de voir, alors sauf si vous avez vous un scoop énorme, et que vous allez le révéler, voilà, c'est ça le problème. Maintenant il reste l'analyse, et c'est le documentaire, sur les grands faits de société. À 52 minutes, il faut que les personnages... Il y a du casting, et je ne regrette pas ce mot. On ne va pas chercher des gens qui n'ont rien à dire. On va chercher des gens qui en ont dans le ventre, et qui ont un bon estomac, et qui racontent leur métier. Il faut que dans un documentaire, un long documentaire, il faut que le téléspectateur s'attache au personnage. Il ne s'attache pas au personnage, il zappe, il s'en va. Il faut que le personnage l'intéresse et que sa vie l'intéresse. Alors les routes de l'impossible, c'est quand même très spectaculaire, mais on aurait pu faire les routes de l'impossible qu'avec du spectaculaire. Mais derrière ce spectaculaire, il y a des gens. Donc il y a des gens, il faut aller les chercher, il faut caster. Il faut les aimer. Souvent, ce sont dans les routes de l'impossible des gens qui sont au bout du monde, hein, des Afghans, des Boliviens, des Congolais, qui sont assez fiers qu'une caméra française vienne s'intéresser à eux. Et nous le rendre, ça, si vous voulez. Donc ils nous donnent leur vie, ils nous donnent leur témoignage, et ils nous accompagnent, la caméra les accompagne sans trop de problèmes, parce qu'ils sont, tiens, on s'intéresse à nous. Nous, pauvres petits camionneurs pakistanais, j'ai une caméra occidentale, je ne sais même pas où la plupart se trouve réellement la carte de France et où est-ce qu'elle est. C'est des blancs qui débarquent et qui vont filmer dans ma famille. Alors ils sont fiers, un peu comme le cartel de Medellín, hein, on satisfait leur ego. Finalement, on satisfait un petit peu leur ego. Puis surtout, ils sont contents qu'on vienne s'intéresser à leur métier. Donc voilà. Et oui, on peut dire que c'est ça. Alors on dit aujourd'hui, ouais, tout est formaté. Bon, oui, c'est formaté, comme la musique. La musique aussi est formatée, le cinéma aussi est formaté. Le formatage est un mauvais mot parce qu'il est, il fait réfléchir ceux qui se prennent un peu la tête et qui font aujourd'hui des documentaires avec uniquement leur point de vue. Oui, il y a un point de vue sur un documentaire, bien évidemment, point de vue du réalisateur et du producteur. Mais ce n'est pas que ça. Il y a un point de vue, mais le film ne peut pas être uniquement le point de vue. Bon, alors après ça, il y a du formatage, mais il y a des modes, zone interdite, ils veulent du familial, bien rythmé, concernant, et avec de l'info, et dans des zones qu'on va dire interdites, bon, ou difficiles d'accès. Bon. Envoyé spécial, ils veulent des enquêtes de conso avec des choses, avec un peu du poil à gratter, avec un travail journalistique, pourquoi ce produit est dangereux, pourquoi il ne l'est pas, et pourquoi on a dit qu'il était dangereux. Voilà, ils veulent ça. France 5, ils veulent de la découverte, ils veulent la connaissance. Voilà, donc bien sûr, TF1 reportage, 13h15, il veut pas qu'on lui parle de massacre et tout ça, il est 13h15, on va pas faire pour 13h15 TF1 reportage, on va pas faire la guerre au Congo. À cette heure-là, les gens, d'abord, il y a des images trop violentes, donc TF1 reportage, ils vont faire du sociétal, bien écrit, avec des histoires, ou patrimoniales, ou des faits divers, mais bien racontés, ou des métiers insolites. Donc oui, on peut dire aussi que c'est formaté, par rapport à l'horaire et par rapport au public. On fait des reportages et des documentaires pour que les gens les voient. Alors ça devient difficile. Économiquement, ça devient très difficile, et éditorialement, ça devient très difficile. Mais on le fait quand même. On le fait quand même, on a quand même ce regard français dont je vous parlais tout à l'heure. On a encore notre mot à dire. L'agence va bien et j'ai une très belle équipe de journalistes convaincus et dynamiques. Et bien, parfois ils rentrent dans mon bureau et me disent « Pourquoi on va pas là ? C'est pas normal. » On laisse faire, mais je sais qu'on va y perdre de l'argent. Bon, c'est comme ça. Là, pour l'instant, ça va. Mais c'est demain. Demain, avec ce qui va se passer sur Internet, Netflix, Orange et tout ça, qui commence à produire, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer chez les diffuseurs? Alors, je crois que Canal a déjà bien pris le virage. Et que TF1 et le groupe M6 et France Télé sont en train d'y réfléchir. Il ne faut pas louper le virage. Et nous non plus. Nous, en tant que producteurs, dans les 5 ans qui viennent, il va falloir qu'on change... notre façon de travailler. Oui, ça va être compliqué. Surtout que c'est mystérieux ce qui va se passer. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, on va s'adapter. On va s'adapter comme on est en train de s'adapter au numérique. Hein. Je pense qu'en tout cas en France, le documentaire et le reportage passionnent encore les gens. Il passionnera encore les gens. Mais est-ce qu'on va le raconter de la même façon dans 2 ans, dans 3 ans? Et est-ce que c'est la fin des petits producteurs indépendants? Est-ce qu'il ne va pas falloir se regrouper? Est-ce qu'il ne va pas falloir s'adosser à des grands groupes pour pouvoir continuer? Je ne sais pas. Moi maintenant j'ai 65 ans. J'ai pas du tout envie d'aller ouvrir le bar des amis à Porto Vecchio. Donc on est encore là. On est encore là. Et est-ce qu'on va passer au tout numérique? Est-ce qu'aujourd'hui... on regardera, envoyé spécial sera regardé sur le iPhone, sur le téléphone portable, à l'heure où on a envie de le voir. C'est déjà un peu le cas. Il n'y a pas de financement pour ça, parce qu'Internet, il n'y a pas de financement. Hein. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien monter une chaîne sur Internet avec tout ce qu'on a, nous, avec toutes nos archives. On a plus de 2000 films, et pas les moindres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est faire du contenu. De toute façon, le contenu, il ne peut pas disparaître. Donc, tant qu'on fait du contenu, on trouvera toujours le virage, la bonne façon de prendre le virage. Si on arrête de faire du contenu en se disant « qu'est-ce qu'on va faire demain ?», on est mort. Il ne faut pas arrêter de proposer des idées, il ne faut pas arrêter de faire ce que nous, on ressent, mes rédacteurs en chef et moi, le matin, quand on se voit, on dit « il faut aller là-dessus, il faut aller là-dessus ». On est à l'agence, on est poussé par l'instinct aussi. Hein. On sait ce qui fonctionne. Et on sait ce qui ne fonctionne pas. On sait exactement dans le documentaire ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne et que le téléspectateur vienne nous voir. Donc on a des codes. Un documentaire, c'est un film, c'est plus un reportage. Il faut des dramaturgies, il faut des rebondissements. Sinon le téléspectateur, il va boire de l'eau tiède. On ne va pas lui donner de l'eau tiède. Il faut l'informer. Et puis il faut qu'il y ait des rebondissements. D'où l'importance du documentaire fait sur la longueur. Ce que nous faisons pour France 3, on est à 8 mois de tournage. 8 mois de tournage. Donc François nous donne les moyens, sans aucun doute. Et ils y croient. Je pense que sur d'autres chaînes, on n'aurait pas ces moyens-là. Sur les chaînes privées, on n'a plus ces moyens-là. Et puis il y a la TNT. La TNT, il ne faut pas oublier non plus. On est gros producteurs de TNT, nous TMC, W9, NT1. Donc on tourne un petit peu en rond aussi là, parce que on est sur de la flic story, hein, en permanence. Donc ça devient un petit peu agaçant, parce que la Flick Story, c'est moi qui l'ai inventée. Après le film de Raymond Depardon, Fait divers, que j'avais trouvé exceptionnel à l'époque, j'ai dit, il faut faire ça, ça marche, c'est bien, on filme derrière les murs de la société, police, justice, prison, asile psychiatrique. C'est moi qui, à l'agence, on a démarré comme ça tout au début. Et aujourd'hui, regardez, sur la TNT, vous ne voyez que ça. En multi-rediffusion, gendarme contre voleur, quoi. Donc il y a une lassitude, là, ça y est, ça commence. D'ailleurs, les chaînes premium n'en veulent plus. C'est pour la TNT. Et à un moment ou à un autre, la TNT aussi va être obligée de faire autre chose. Quand ils essayent de faire de la conso ou de l'enquête de société, les gens ne viennent pas. Ils viennent sur de la Flick Story. Bon, ben c'est comme ça. Avec le problème inverse, c'est que ministère de l'Intérieur et gendarmerie ne veulent plus faire de la TNT. Est-ce qu'ils veulent briller dans le premium sur du hertzien? Donc ça devient super compliqué, donc il va falloir arrêter.
En fait, on se rend compte que les métiers d'image aujourd'hui, que ce soit les photographes indépendants ou en agence, ou les fournisseurs de contenu comme vous êtes dans une forme d'incertitude lourde.
C'est ce que vous avez, incertitude totale. Alors, pour mes amis photographes, c'est encore beaucoup plus dur, à part des copains comme Salgado, Richard Melloul, des gens comme ça, Patrick Chauvel qui s'en sort bien. Hein. À part quelques grands noms, les autres, ben quoi, ils font des photos à 70€, quoi. Donc ils crèvent de faim, quoi. Donc, j'ai souvent dit à des copains, dont un qui était à l'agence, hein, Nicolas Moscara, ou d'autres, je leur ai dit il y a 10 ans, je leur ai dit, passez à la vidéo, parce que le métier de photographe n'a pas beaucoup d'avenir, quoi. La presse écrite n'a plus d'argent, donc forcément, c'est fini, hein, la grande époque de Match où on vendait 80 000€ une couverture et 6 pages. C'est terminé.
Quel est le coût, la couverture, l'image fixe ou animée que vous avez fait qui est pour vous la plus... celle qui résonne le plus en vous aujourd'hui?
Ça dépend. C'est comme des fantômes qui viennent parfois. Beyrouth me revient dans la tête. Comme ça, des espèces de fantômes qui... Des bruits. Et, ouais, des odeurs aussi. Mais des fantômes. Des fantômes qui reviennent. Des images terribles dont on a été témoin parfois, qu'on n'a même pas pu filmer parce que on mettait notre vie en danger, qui reviennent, notamment des scènes atroces au Salvador, de gens, ils appelaient ça le chaleco, ils coupaient vivants les mains et les jambes des... Voilà, un jour j'ai assisté à ça, je pouvais même pas sortir ma caméra parce que j'aurais subi le même sort. Donc vous êtes là, impuissant, vous regardez ça, donc ça c'est des fantômes qui reviennent. Et puis ça revient au moment où vous n'y attendez pas. Hein. Sinon, ben, les grands scoops, oui, hein, dont on est fiers, c'est le cartel, c'est Roméni, c'est les photos de Jacques Mesrine, c'est. Voilà. Ça, c'est les grands scoops dont on est fiers, dont on affiche à l'agence. Hein. Voilà, le Chili, le stade du Chili. Et puis le prochain coup.
Merci. L'ensemble de ces enregistrements a été réalisé en 2016. Je remercie ici Tony Comiti du temps consacré à ce récit et de cette exclusivité encore active.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info. Info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt. Thank you.